Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et le prochain comme toi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, notre religion est simple, c'est nous qui sommes compliqués. Notre Dieu est simple, ce sont les hommes qui sont un peu trop compliqués. Et nous tenons cette complication pour une forme d'alibi. C'est parce que nous sommes compliqués, ou plutôt parce que nous compliquons à plaisir des choses qui de soi sont simples, que nous nous excusons
de ne pas faire de progrès dans la vie spirituelle, que nous trouvons là quelques prétextes à piétiner dans l'ascension qui doit nous mener vers Dieu. L'évangile de ce jour résume la loi et les prophètes en quelques mots, en quelques lignes. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Essayons donc de nous simplifier quelque peu, de ne pas compliquer l'honneur que nous devons rendre à un Dieu simple. Tout d'abord, considérons ce que cela peut bien signifier, que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, et ailleurs l'Écriture dit, vous le savez, de toutes ses forces. Ensuite, voyons ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même. Enfin, essayons de nous exhorter, essayons de nous extraire d'une certaine médiocrité dont nous avons peut-être fait notre quotidien. En premier lieu, qu'est-ce donc qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces? Il ne s'agit pas de subtiliser, il ne s'agit pas d'ergoter, il ne s'agit pas de compliquer. Cette abondance de synonymes ne doit pas nous arrêter. Bien au contraire, nous devons voir que notre intelligence est là impuissante à saisir un mystère, l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Alors elle multiplie les synonymes, elle multiplie les expressions. N'essayons pas d'attribuer telle partie de notre amour pour Dieu à l'intelligence, telle autre partie de notre amour pour Dieu à la volonté, au cœur, à la sensibilité, à l'affectivité. Considérons plus simplement que c'est tout nous-mêmes qui est non seulement sollicité, mais je dirais même mobilisé. Il ne s'agit pas d'accepter qu'une de nos facultés, qu'une de nos puissances soit en réserve. Tout nous-mêmes au service de Dieu. Et là, souvent, nous avons tendance à réserver une partie de nous-mêmes, un jardin secret, un jardin intérieur où Dieu n'entre pas, ne pénètre pas. La simplicité évangélique ne doit pas nous masquer l'exigence de ce précepte. Tout nous-mêmes. Nous avons tendance peut-être à nous économiser. Or, permettez-moi de vous le rappeler, les économies d'énergie spirituelle ne sont pas de mise au service de Dieu. Bien évidemment, il est demandé à notre intelligence, il est demandé à notre volonté, il est demandé à notre sensibilité de servir Dieu. Pas plus l'intelligence que la volonté, pas plus la volonté que la sensibilité. Il ne s'agit pas d'hypertrophier la sensibilité dans une forme d'amour de Dieu, mièvre, beaucoup trop affectif pour être effectif. Tout nous-mêmes et à égalité. Mobiliser, vous disais-je, et en avançant de front. Vous vous doutez des ravages que peut produire dans la vie spirituelle un amour de Dieu qui serait purement cérébral, intellectuel, desséché, guindé, amidonné. Dieu ne nous demande pas cela, pas simplement de l'aimer en thèse, sur le papier, dans les livres. Il faut donc que la volonté, éclairée par l'intelligence, elle aussi intervienne et qu'elle commande aux puissances inférieures des actes d'amour pour Dieu. Comment se manifeste notre amour pour Dieu? L'Écriture nous le dit. Si nous observons sa loi, si nous observons ses commandements, non pas simplement si nous les comprenons intellectuellement, non pas simplement si nous les voulons, mais si nous les accomplissons. Voilà ce que c'est qu'aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son cœur. Le deuxième point qui doit retenir notre attention, c'est le second précepte dont il est dit qu'il est égal au premier, mais dont il vient néanmoins après. Ce second précepte, vous le savez, aimer le prochain comme soi-même. Et là aussi, essayons de dissiper quelque ambiguïté, quelque équivoque. Ne convient pas, lorsque nous nous adressons à Dieu, de maintenir une forme de flou poétique. Qu'est-ce donc qu'aimer le prochain comme soi-même ? Cette question, vous vous en rendez compte, présuppose une autre question. Qu'est-ce qui est aimable en nous? Qu'est-ce que nous aimons en nous? Le vieil homme vous dira, j'aime en moi mon charme, mes qualités, mon savoir-faire, et que sais-je encore? C'est pourtant la partie qui a le moins d'intérêt. Ce n'est pas cela qui nous rend aimables. Ce qui nous rend aimables, c'est ce que Dieu a mis en nous. Ce qui nous rend aimables, c'est la marque de Dieu, c'est l'empreinte de Dieu, c'est le sceau de Dieu déposé au baptême. Si nous nous laissons fasciner par les qualités sensibles, alors nous risquons de nous tromper sur l'amour que nous portons à nous-mêmes. Et l'on voit de ces chrétiens prisonniers, captivés, hypnotisés par leurs qualités sensibles, leurs charmes. Alors ceux-là se déplacent dans la vie spirituelle comme des esthètes, des amateurs, des touristes, à la recherche d'une émotion, d'une sensation, d'une titillation, que sais-je encore. Ce n'est pas la partie qu'il faut aimer en nous. Ce que nous trouvons d'aimable en nous, si nous avons accepté que l'homme nouveau vive véritablement en nous, c'est ce que Dieu y a laissé. Dès lors, et c'est là d'une logique imperturbable, ce que nous devons aimer dans les autres, c'est ce que Dieu y a mis. N'aimons pas les autres pour l'emballage, si vous me permettez cette expression, pour les qualités purement futiles. Essayons d'aimer l'autre pour ce qu'il a de meilleur, ce meilleur dont il ne se rend pas toujours compte. Aimer le prochain, c'est aimer la marque de Dieu qui est en lui. Cette chose est importante pour vous, messieurs, qui vous destinez au sacerdoce. Il n'est pas question qu'un prêtre s'arrête à l'aspect extérieur des choses, se laisse lui aussi fasciner, hypnotiser, captiver par les qualités purement sensibles des âmes qui lui sont confiées. Il doit aller à l'essentiel, il doit aller à l'éternel, il doit aller à l'âme et au sceau dont cette âme est marquée, le caractère baptismal. Ces propos sont quelque peu sévères, quelque peu exigeants. Et pourtant, il n'en est pas d'autre s'agissant de ce précepte évangélique. Nous ne pouvons pas rapetisser, aplatir le message évangélique, le mettre à notre portée. C'est à nous de nous élever jusqu'à ce que Dieu attend de nous. Ce n'est que dans ces conditions que nous marcherons selon notre vocation, comme nous le demande saint Paul dans l'épître qui nous est proposée par la Sainte Église aujourd'hui. Le troisième point consiste, vous ai-je dit, à nous exhorter quelque peu. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une forme de médiocrité de croisière. L'amateurisme n'est pas de mise. Nous devons impérativement nous hisser à ce niveau. Nous devons impérativement vivre, marcher selon notre vocation. Quels exemples nous sont fournis aujourd'hui même qui nous poussent hors de cette médiocrité dont je vous parlais en commençant. Je sais un peuple qui souffre le martyre. Je sais un peuple dont les femmes et les enfants sont massacrés au pied des autels. Sont-ils amateurs, touristes, dilettantes, esthètes, à la recherche d'émotions, de sensations, de titillations? Certainement pas. Serons-nous en retrait? Sommes-nous en réserve? Il est demandé à un peuple au Proche-Orient de souffrir le martyre, et nous, nous resterions dans une atmosphère feutrée, calme, gentille. Quelle erreur si nous pensions cela. Toutes nos énergies, toutes nos facultés, toutes nos puissances mobilisées au service de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain. Si nous avons du mal à nous extraire nous-mêmes d'une certaine moyenne, trop moyenne, regardons l'exemple qui est demandé, regardons l'héroïsme qui est exigé par Dieu de certains chrétiens qui n'hésitent pas à mourir au pied de la croix, physiquement. Nous aussi, nous devons mourir, non pas au pied de la croix, mais sur la croix. Nous aussi, nous devons, pour l'amour de Dieu, pour l'amour des âmes, pour l'amour de la Sainte Église, accepter le sacrifice héroïque. Tout cela est facile à dire et beaucoup plus difficile à pratiquer. Les exemples nous provoquent, nous attirent, mais il faut demander à Dieu, et principalement à Dieu, la force que nous n'avons pas. Nous sentons cette langueur qui est là dans tous nos membres. Nous voudrions, mais nous n'osons pas. Nous manquons de courage. Nous sommes faibles. Faut-il se décourager, désespérer, se laisser abattre, plonger dans le découragement, le désespoir? Certainement pas. Seuls, nous ne pouvons rien. Par nos propres forces, nous ne pouvons rien. Il faut donc demander à Dieu sa force. Aimer Dieu de toutes nos forces, c'est demander à Dieu sa force. La prière que nous devons formuler aujourd'hui, au cours du Saint Sacrifice de la Messe, à la veille, au seuil de cette nouvelle année, est la suivante. Mon Dieu, tirez-moi de cette torpeur. Mon Dieu, attirez-moi vers votre bonheur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, le cœur n'a point connu ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Excellences, messieurs, mes frères, la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête que la Sainte Église nous propose aujourd'hui, et vous le savez, la fête de tous les saints. C'est comme une porte ouverte sur le ciel qui nous est proposée. Et de cette porte s'échappe un cri unanime. Tous les élus, tous les bienheureux ne disent qu'une chose, Alléluia. Un cri d'allégresse qui manifeste leur joie, leur bonheur éternel. Eux, ils voient, les hommes croient. Eux, ils possèdent, les hommes espèrent. Est-ce que la Sainte Église nous propose simplement de contempler, de voir, d'envier ce bonheur ? Est-ce que cette porte se referme, nous laissant seuls avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre médiocrité ? Ce serait mal comprendre la liturgie que de raisonner ainsi. La liturgie demande deux cœurs. Un cœur céleste, et nous venons de l'entendre, c'est celui qui chante Alléluia. Un cœur terrestre, dont nous sommes, et qui doit dire Sursum corda. L'Église nous demande de répondre à l'Alléluia des bienheureux par un immense Sursum corda. Élevons nos cœurs. Élevons nos pensées vers la patrie, vers ce qu'un jour, avec la grâce de Dieu, nous verrons et nous posséderons. Ne restons pas rivés, cramponnés, fixés à cette terre, comme si nous devions toujours y rester. Élevons nos cœurs, élevons nos pensées vers la patrie, vers le lieu de notre séjour éternel. Ne nous attachons pas à des joies éphémères, pensons au bonheur éternel. Saint Paul, dans cette épître dont j'ai cité un extrait, veut nous aider, si je puis dire, à nous extraire de cette terre. Et il nous propose de considérer de façon allusive ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a pas connu, à savoir le bonheur que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Essayons donc de parcourir successivement ce que notre œil pourra voir, ce que notre oreille pourra entendre, ce que notre cœur pourra connaître. Notre œil, et il s'agit ici principalement de l'œil de notre âme, est assoiffé de Dieu. Sur terre, nous sommes comme ce cerf dont parle le psalmiste. Tam quam desideravit fervus ad fontes aquarum. Ce cerf qui désire l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il est traqué par les chasseurs et qu'il cherche une halte où se désaltérer. Et nous aussi, nous sommes traqués. Ou plus simplement tracassé, traqué par le péché, ou plus simplement tracassé par les tentations, par les peines de cette terre. Nous aussi, comme le cerf, nous désirons l'eau, nous désirons boire à longs traits, nous désirons boire, ou plus exactement, nous désirons voir, voir Dieu. En dehors des énigmes, en dehors des mystères, le voir face à face. Voilà ce à quoi nous aspirons. C'est pourquoi nous nous sommes donnés à Dieu. C'est pourquoi nous avons voulu tout quitter, père, mère, frère, sœur, famille, patrie, pour entrevoir Dieu ici et le voir face à face là-haut. Je sais un enfant qui a voulu être prêtre pour voir ce qu'il y avait dans le tabernacle. Mais ce qu'il y a dans le tabernacle, on ne le voit que là-haut, dans les tabernacles éternels. Nous devons être insatiables lorsqu'il s'agit de désirer Dieu. On ne désire jamais assez Dieu. Nous voulons le voir. Nos ostensoirs ne nous proposent qu'une faible image de la gloire de Dieu. Tout l'or que nous pouvons mettre, tous les diamants, toutes les pierres précieuses que nous pouvons disposer autour de la Sainte Hostie ne nous montrent pas Dieu, ne nous font pas voir Dieu. Seul là-haut se trouve Dieu. Ici, nous le voyons caché, mystérieux, énigmatique. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce que Dieu veut nous donner, lui-même, face à face, vu sans mystère. Allons-nous laisser nos regards se promener au hasard sur les créatures? Allons-nous proposer aux yeux de notre âme des objets indignes d'elle? Ça n'est pas la leçon de cette fête. Que désirons-nous entendre? Entendre Dieu. Assez de bruit. Entendre Dieu. Et que nous dira Dieu? La première parole que Jésus-Christ nous adressera, je veux le croire, ce sera un « enfin ». Enfin te voici, toi que j'attendais, parce que je t'aimais. Lorsque ton intelligence se fermait, lorsque ta volonté se cabrait, lorsque ta sensibilité s'exacerbait, lorsque tu enfonçais les doigts dans la matière, lorsque tu te cramponnais à cette terre, je t'attendais. Lorsque tu as crié, je t'entendais. Dieu nous attend, et parce qu'il nous attend, il nous entend. Et lorsque nous arriverons, il nous dira, viens, vois mon côté, vois mes plaies, vois ma sueur, vois ma couronne d'épines. C'était pour toi. À ta résistance, je n'ai opposé que ma patience. Viens enfin, enfin que nous nous aimions, enfin que tu puisses répondre à mon amour. Voilà tout simplement, non plus face à face, mais cœur à cœur, ce que Dieu veut nous dire. Ô les cœurs, sursum corda, élevons nos pensées, élevons nos volontés vers ce que Dieu veut nous dire. Essayons de l'écouter et non pas simplement de l'entendre comme un bruit familier auquel nous sommes un peu trop habitués pour n'être pas blasés. Élevons-nous, sursum corda. Dès lors, notre cœur connaîtra le bonheur. Un bonheur que le cœur de l'homme ne connaît pas. Un bonheur sans fin, sans mélange, sans faille. Parce que là-haut, le règne ne se termine pas. Ici, notre joie est toujours éphémère. Elle peut à tout instant cesser. Nous sommes un jour dans la joie et le lendemain dans l'abattement. C'est la terre. Là-haut, le règne de Dieu ne finit pas. Notre joie au ciel, nous ne pouvons pas la connaître ici. Il s'agit d'une joie éternelle. Voilà ce que les saints nous proposent aujourd'hui. Ils nous le disent. Alléluia, répondez sursum corda, élevez vos cœurs. Nous voyons le but, nous voyons la fin, nous voyons notre patrie. Mais nous ne voyons peut-être pas le chemin, peut-être pas le moyen. Ce moyen, tous les saints que nous célébrons aujourd'hui, ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus, tous ces saints ont suivi le même chemin, la même voie. Ils ont suivi celui qui est la voie, ils ont suivi Jésus-Christ. C'est la voie étroite, mais c'est la voie droite. Sur cette voie, on ne se retourne pas. sur cette voie, on ne s'arrête pas. De cette voie, on ne s'écarte pas. Voilà tout ce que les saints nous ont appris. Voilà ce à quoi nous devons penser. Car Jésus-Christ, qui est la voie, nous pose cette question. Cette question qu'il posait à l'un de ses saints, à Saint-Pierre, Quo vadis ? Où vas-tu ? Je m'égare, je m'écarte, je ralentis, je faiblis, je me décourage, je m'arrête, je retourne en arrière, je me suis donné et je me suis repris. Où vas-tu ? Il faut répondre ce matin. Alors que nous voyons tous ces saints nous exhorter à les suivre, parce que même on suivit Jésus-Christ, qui est la voie, il nous faut répondre. Et il n'y a que deux réponses. Où vas-tu ? Je vais vers le pays des merveilles, vers les paradis artificiels. Et c'est la réponse du pécheur. Où vas-tu ? Je vais vers ma patrie. Je vais vers votre paradis. Et c'est la réponse qu'ont fait tous les saints. Ma patrie, votre paradis. Nous répondrons au cours de cette messe. Nous demanderons au cours de la consécration. Nous demanderons au moment de notre communion à notre Seigneur, à la Sainte Vierge, à tous les saints de nous aider à répondre. Où vas-tu ? Répondons par la dernière strophe de la Dorothée, que nous puissions voir face à face Dieu que nous ne contemplons que de façon cachée, pour pouvoir jouir de sa gloire éternellement, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le Supérieur Général, messieurs, mes frères, la nouvelle année académique qui s'ouvre aujourd'hui nous remet en mémoire ce qui doit être l'idéal de tout séminaire, non seulement la doctrine, non seulement la piété, mais l'union de la doctrine et de la piété. Et c'est dans cette union que réside toute la difficulté de l'entreprise à laquelle nous nous livrons. Il n'est pas question simplement de cultiver une doctrine sans amour, encore moins de chercher à acquérir une piété mal éclairée. Il faut les deux, et la doctrine et la piété. Ces considérations, messieurs, vous sont familières. Elles ont été souvent traitées devant vous, et peut-être que vous pensez qu'il n'est plus temps de traiter ces vérités, parce que justement, on vous les a déjà dites, on les a déjà redites. L'important n'est pas d'avoir dit ou redit, l'important est de savoir si nous vivons cette union de la doctrine et de la piété, si nous avons et la science et la charité et la science. Souvent, nous avons tendance à neutraliser ces vérités. Nous les plongeons dans le monde quelque peu aseptisé des vérités platoniciennes, celles qui ne touchent pas terre, celles qui ne nous dérangent pas, celles qui ne sont pas incarnées, celles que l'on n'a pas à vivre. Alors, qu'en est-il de notre vie quotidienne ? Elle est le démenti flagrant de cet idéal qui nous est tous les jours proposé. Nous avons la doctrine, mais sans amour. Nous avons la piété, mais elle n'est pas éclairée. Ou s'il faut parler de façon plus concrète, de façon plus quotidienne, il arrive trop souvent que notre bouche soit emplie de miel, alors que notre cœur est lui rempli de fiel, c'est-à-dire de ses vérités un peu sombres qui font notre intimité. S'il nous faut encore préciser un petit peu cette alliance que nous avons beaucoup de mal à vivre, s'il nous faut mieux voir ce divorce entre la doctrine et la piété, on pourrait dire que notre époque, et en ce sens nous sommes les fils de notre siècle, notre époque exprime tout son idéal par monosyllabes, je sais, ou je veux, et de temps en temps on essaye de composer une phrase, et cela donne, je sais ce que je veux. Oui, et voilà bien le drame, nous savons ce que nous voulons, mais peut-être que nous ne voulons pas ce que nous savons, c'est-à-dire que nous ne voulons pas efficacement, nous ne vivons pas conformément à ce que l'on nous a enseigné. Il y a un divorce entre la doctrine reçue et puis la réalité vécue chaque jour. Il nous faut donc, au seuil de cette année, mieux considérer ce que c'est que la science, la vraie science, et voir comment il faut, selon l'enseignement de saint Paul, être les disciples de la vérité dans la charité. Alors et alors seulement, nous pourrons croître par toute notre vie en celui qui est notre chef, Jésus-Christ. La vraie science, c'est tout d'abord ne pas perdre de vue l'essentiel, ne pas cultiver l'accessoire, l'anecdotique, se perdre dans de vains détails d'érudition, c'est aller au formel. Saint Paul nous dit qu'il y a des gens qui apprennent toujours sans parvenir jamais à la science de la vérité. Malheur à nous si au cours de ces années d'études nous avons appris et si nous n'avons pas, au terme de ces 6 années, au moins entrevu ce que c'est que la science de la vérité. Et nous pourrions citer une pléiade de saints qui nous disent exactement ce que c'est que l'essentiel, c'est-à-dire ce à quoi vise l'enseignement que nous recevons. Saint Bernard, tout d'abord, ma philosophie à moi, c'est de connaître Jésus-Christ. Saint Augustin, toute science passe, hormis connaître Jésus-Christ. Et saint Paul, que vous connaissez, je ne sais que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et si les saints ne suffisent pas, alors demandons à notre Seigneur lui-même de nous dire ce que c'est que la science, la vraie science. La vie éternelle, nous dit notre Seigneur, c'est de connaître le vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Tout l'enseignement que nous pouvons recevoir, toutes les disciplines que nous pouvons cultiver, si elles ne nous mènent pas à Jésus-Christ, conduisent à cette science qui enfle, qui boursoufle, mais qui n'édifie pas. C'est une science vaine, c'est une science dont nous nous repaissons, c'est une science dont nous sommes fiers, c'est une science qui ne nous servira à rien pour la vie éternelle. Il nous faut prendre peut-être comme résolution, en ce début d'année, d'être de la génération de ceux qui cherchent Dieu, comme dit la Sainte Écriture. Et nous devons nous poser, avant d'entrer dans cette retraite, cette question. Sommes-nous véritablement de la génération de ceux qui cherchent Dieu? Ou alors sommes-nous, justement, de la génération des fils de ce siècle, c'est-à-dire très loin, très oublieuse de Dieu? Generatio querentium Deum. Voilà la génération dans laquelle nous devons nous situer. À cette condition, vous serez, messieurs, de vrais disciples. Et vous le savez, si vous êtes aujourd'hui des disciples, c'est pour être demain des apôtres. Ne nourrissez pas l'illusion d'être des apôtres sans avoir été des disciples. Ne pensez pas que vous pouvez être des disciples tièdes, mous, flasques, pour ensuite être des apôtres vibrants. Quelle illusion, quelle erreur. Comment voulez-vous être des apôtres si vous n'avez pas été des disciples? Et vous serez d'autant plus apôtre que vous avez été d'autant plus disciple. La Sainte Écriture nous dit « Labia sapientium disseminabunt scientiam » « Les lèvres des sages dispensent la science ».
mais la sagesse s'acquiert, et elle s'acquiert par la docilité, par la docilité. Voilà la vraie science, voilà celle qui est attendue. Il n'y a pas, vous le savez, mais cela ne doit pas vous rassurer, il n'y a pas d'examen pour cette science-là. Ou plutôt, il n'y en a qu'un seul, celui pour lequel il n'existe pas de rattrapage, l'examen final, le jugement dernier. Cette science, saint Paul nous dit, il nous faut l'acquérir, mais dans la charité. Et saint Pédis, notre patron, se fait l'écho de l'apôtre des gentils. Qu'il soit savant, dit-il, mais surtout qu'il soit saint. Il ne s'agit pas simplement de connaître la vérité et de la répandre, il s'agit d'en vivre. Et c'est cela, n'est-ce pas? Facientes veritatem in caritate. Vous dirais-je, comment est-ce que l'on vit la vérité? Non. Cela ne sert pas à grand-chose de dire comment est-ce que l'on vit. Cela ne fait pas vivre de dire comment l'on vit. Je vous dirai plus simplement quels sont les obstacles à cette vie. L'obstacle à cette vie de la vérité, dans la charité, c'est notre moi, c'est notre esprit propre, c'est notre esprit naturel. Et l'antidote, c'est l'imitation de Jésus-Christ qui nous le donne, le remède, il est là en trois mots, da Christo locum, cède la place au Christ. Et comme je crains que cette phrase soit quelque peu trop impersonnelle et que personne ne se sente véritablement concerné, je la préciserai en disant « da Christo locum » non pas simplement « cède la place au Christ » mais « cède ta place au Christ ». Ce à quoi nous cherchons, ce à quoi nous nous attachons, notre place, notre rôle dans la comédie humaine, notre moi, nos caprices, notre volonté propre, voilà. Voilà la place à laquelle nous nous crispons, à laquelle nous nous cramponnons, à laquelle il faut non pas simplement se détacher, mais s'arracher. Cède ta place au Christ, celui qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Alors véritablement, nous pourrons faire nôtre la phrase de saint Paul « Mihi vivi est Christus ». Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et dans les moments de faiblesse, nous ne nous découragerons pas parce que nous saurons que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Da Christo locum, cède ta place au Christ. Ne t'attache pas à ta volonté propre. Ne te cramponne pas à tes caprices, à tes désirs. Cède ta place. C'est à cette condition, à cette seule condition, que nous pourrons non pas simplement dire comment il faut vivre, mais vivre tout simplement. Vivre la vérité. Vivre la vérité dans la charité. La récompense, nous nous la mettons non seulement sur les lèvres, mais j'espère en mémoire chaque matin lorsque nous revêtons notre soutane, lorsque nous revêtons nos habits, Dominus pars hereditatis me. C'est vrai que nous cédons la place au Christ, mais parce que le Seigneur est la part de notre héritage. Alors n'allons-je pas chercher des ersatz, des substituts, d'autres dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est celui-là qui nous a choisis et que nous avons choisi, Dominus pars hereditatis me. Deux phrases, donc, peuvent servir de point de départ à cette semaine de retraite. Être de la génération de ceux qui cherchent Dieu et céder la place, s'effacer devant le Christ. Mes frères, il vous semble peut-être que ces mots n'ont constitué qu'un long aparté duquel vous étiez absent, à Dieu ne plaise. En effet, la formation des séminaristes, la formation des futurs prêtres concerne ô combien les laïcs. Jérémie dit de la part de Dieu, « Je vous donnerai des pasteurs qui vous dispenseront la science et la doctrine. Ces pasteurs se méritent par les prières et par les sacrifices. Et puisqu'aussi bien les futurs pasteurs de vos âmes entrent en retraite cette semaine, il faut que vous aussi vous entriez d'une certaine façon, par vos prières, par cette communion, par cette sympathie spirituelle, que vous entriez en retraite et que vous priez pour eux et que vous priez pour nous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Notre-Dame des Sept Douleurs. Un prédicateur disait de la Sainte Vierge, toute jeune, elle se mit dans le silence pour n'écouter que Dieu. Ce sont bien les dispositions qui doivent être les nôtres en ce début d'année, juste avant cette retraite. Se mettre dans le silence pour n'écouter que Dieu. Silence aux passions, silence à l'orgueil, silence aux souvenirs, silence à la curiosité, silence aux obsessions. Ouvrons les portes du silence et découvrons celui qui est la vérité et l'amour, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Messieurs, mes frères, en ce dimanche de la Septuagésime, le rapprochement que l'on peut faire entre l'Épître et l'Évangile que l'Église nous propose, ce rapprochement ne manque pas de surprendre un esprit quelque peu attentif. Bien évidemment, je n'envisage pas ceux dont les oreilles sont déjà pleines de ce qu'on va leur dire et le cœur déjà vide de ce que Dieu veut nous apprendre à l'occasion de ces lectures. Mais pour ceux qui essayent de porter quelque intérêt, de mettre toute leur attention, d'appliquer tout leur esprit à la parole de Dieu, ceux dont les oreilles ne sont pas fatiguées, ceux dont le cœur est encore avide de vérité, il y a effectivement une surprise parce qu'il y a un paradoxe. Qu'entendons-nous, Saint Paul, nous dire, voyez les coureurs dans le stade, ils courent tous, mais un seul sera le premier. Et notre Seigneur dire dans l'Évangile, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous entendons Saint Paul exhorter les Corinthiens à courir eux aussi dans cette carrière spirituelle, à faire des progrès, à faire des efforts, à se sacrifier, à se livrer à une certaine abstinence, comme tous ces athlètes le font pour une couronne périssable, afin que les chrétiens, eux aussi, obtiennent une couronne impérissable, celle-ci, à savoir la gloire éternelle. Et puis nous entendons notre Seigneur nous dire, les premiers, ceux qui seront arrivés, seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il y a là quelques paradoxes, il y a quelque chose là de proprement surprenant. C'est peut-être que nous n'avons pas bien fait la comparaison, c'est peut-être que nous n'avons pas bien saisi le rapprochement, c'est peut-être que nous ne comprenons pas exactement ce que notre Seigneur veut nous dire. Et là, je forme un souhait au début de ces quelques mots, je forme le souhait de m'adresser à ce public que Saint Paul avait, ce public grec, corinthien, ce peuple éminemment prompt, vif, intelligent, capable de saisir les allusions, de comprendre à demi-mot, non pas de ce public qui, de temps en temps, ouvre les yeux et projette sur le prédicateur un regard calme, comme les eaux dormantes, que rien jamais ne viendra troubler. Pas le moindre ruisseau d'intérêt, pas le moindre torrent d'enthousiasme, pas le moindre fleuve d'intelligence, ou comme ces cieux un peu laiteux, que pas un éclair, pas même une étincelle, pas même une lueur ne viendra jamais éclairer. Imaginons donc que nous avons affaire à un public de Corinthiens, de ces primitives chrétientés qui surent alliés, l'intelligence, le génie de leur race, le zèle catholique et le zèle attique en une seule foi, imaginons, espérons. Qu'est-ce que Saint Paul veut dire à ces Grecs? Qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette première chrétienté à tous les chrétiens qui viendront, à tous les chrétiens qui suivront? Il veut leur dire, effectivement, que la vie chrétienne est un combat, qu'il faut envisager de façon assez sportive, athlétique, virile. Effectivement, tous courent, tous se battent, et un seul arrive. Et tous, nous aussi, nous devons nous battre contre nous-mêmes, contre nos défauts. Nous devons accepter des sacrifices, nous devons accepter de retrancher, d'extirper, d'extraire quantité de défauts, quantité de vices, quantité de défauts dominants, quantité de vices habituels, pour pouvoir emporter une couronne qui n'est pas une couronne de feuilles, non pas de ces couronnes qui se fanent, mais une couronne impérissable, éternelle, la vision béatifique. Voilà effectivement ce que saint Paul demande à tous les chrétiens. Et il dit lui-même qu'il le fait, qu'il essaye de le faire. Il réduit son corps en servitude. Il veut effectivement que l'esprit domine la chair et non pas que la sensibilité, la passion plus ou moins fébrile, toujours capricieuse, ne vienne à exercer un empire tyrannique sur l'intelligence et n'empêche la foi de se développer, l'espérance de croître, la charité de s'épanouir. Il veut effectivement être maître chez lui parce que le Christ est son maître. Il veut que par la foi, par l'espérance et la charité, ce soit bien Jésus-Christ qui domine en lui et non pas les passions. Alors effectivement, il dit bien qu'il connaît l'art du combat. Il ne frappe pas en l'air, il ne se trompe pas d'ennemi, il ne se trompe pas de cible. Il sait où il faut frapper, où il faut lutter. Il se connaît et il essaye de faire tous ses efforts. Et il nous dit à nous aussi, eh bien faites de même. Vous aussi tâchez de lutter. Et c'est bien la leçon de la Septuagésime. C'est bien ce que l'Église qui nous fait revêtir les vêtements du deuil, qui nous fait revêtir la couleur violette, c'est bien ce que l'Église nous demande, vous aussi, ne soyez pas fatigués de lutter, vous aussi, ne soyez pas usés avant d'avoir combattu, vous aussi, efforcez-vous de réduire en servitude votre corps et tout ce qui va avec le corps, tous ces appétits plus ou moins frivoles. Et puis l'on a cet évangile, où effectivement, notre Seigneur nous dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et c'est-à-dire qu'il décourage ceux qui veulent lutter et qu'il encourage ceux qui ne veulent pas lutter en leur disant « Ne luttez pas, soyez derniers, vous serez premiers. » Est-ce là ? Certainement pas. Ce qu'il veut dire, il nous faut le mettre en perspective, il nous faut essayer de le bien comprendre. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et à la fin du chapitre précédent, dans cet évangile de saint Matthieu, il y a une phrase similaire. Ceux qui étaient les premiers deviendront les derniers. Ceux qui étaient les derniers deviendront les premiers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie effectivement que nous sommes tous appelés au salut. Que Dieu nous demande tous de suivre notre vocation, qui est une vocation d'éternité. Nous sommes tous appelés à le contempler. Seulement voilà. Ce qui se passe, c'est que nous ne savons pas persévérer. Nous ne savons pas nous maintenir en lice. Il vient un moment où nous baissons les bras. Il vient un moment où nous sommes fatigués. Alors, nous étions partis pour être parmi les premiers. Et puis, nous nous sommes lassés. Nous nous sommes fatigués. Et nous avons perdu de la distance. Et nous sommes devenus les derniers. Ce n'est pas Dieu qui nous rend derniers. C'est nous, par notre manque de persévérance. C'est nous, par notre paresse spirituelle, qui nous sommes faits les derniers. Et c'est bien la leçon de la vie spirituelle pour beaucoup d'entre nous. Quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état dans le monde ou dans l'Église, nous sommes partis avec l'idée de gagner cette couronne. Nous sommes partis pleins d'enthousiasme. Nous sommes partis avec beaucoup de ferveur, avec une ardeur qu'il a fallu même canaliser. Et puis le ruisseau s'est tari et nous nous sommes retrouvés quelque peu secs, paresseux, indolents, insouciants, à nous dire qu'après tout, pourquoi ? Pourquoi se battre? Pourquoi se battre contre soi-même? Pourquoi se battre contre ses péchés? Pourquoi essayer d'extirper, de déraciner ses vices? Alors l'Église nous dit en ce jour de la Septuagésime, reprenez le combat, reprenez la lutte, parce que vous étiez partis pour être parmi les premiers. Vous vouliez vous aussi atteindre le but, vous vouliez vous aussi la couronne, et puis vous avez oublié la couronne, et puis vous avez oublié la lutte, et puis vous voilà en mauvaise position, prêt à devenir la lanterne rouge, c'est-à-dire le dernier. C'est un défaut de persévérance que notre Seigneur signale, stigmatise pour ainsi dire. C'est cela qu'il dénonce. Qu'avez-vous fait de votre ardeur première? Qu'avez-vous fait de votre ferveur lorsque vous avez été appelé? Qu'avez-vous fait de toutes les grâces que je vous avais données au début? Les avez-vous entretenues? Les avez-vous conservées? Avez-vous cherché à les faire croître, à les faire grandir en vous? Ou bien vous êtes-vous habitué à la médiocrité? Ou bien vous êtes-vous dit, cela suffit, plus tard, une autre fois? Il y en a beaucoup qui, à l'image de ces deux animaux mis en scène par le fabuliste, se disent qu'ils vont partir, effectivement, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour courir, pour arriver parmi les premiers. Ils font confiance, un peu trop confiance en eux, pas assez en Dieu. Et résultat, ce sont les animaux les plus lourds, ceux qui se défiaient d'eux-mêmes, ceux qui se confiaient en Dieu, qui arrivent les premiers. Il nous faut donc, en ce début de ce temps de pénitence, qui est la Septuagésime, qui inaugurera dans quelques semaines le temps du carême, qui préludera lui-même au temps de la semaine sainte, il nous faut nous poser cette question. Qu'avons-nous fait de notre ferveur? Il nous faut penser justement à la deuxième partie de l'épître de saint Paul. Que nous dit saint Paul? Tous dans le désert ont eu les mêmes grâces. Tous ont mangé de la manne, tous ont bu à l'eau du rocher. Mais ils ne sont pas arrivés. Ils avaient les mêmes grâces. Les ont-ils entretenues? Ils n'étaient pas agréables à Dieu, dit saint Paul. Nous aussi, nous avons tous les mêmes grâces. Nous aussi, nous avons tous les mêmes dispositions. Dieu nous a donné à tous une vocation qui a pour finalité le salut. Tous nous usons du même sacrement d'Eucharistie. Tous nous allons au confessionnal. Est-ce que nous savons entretenir ces grâces? Est-ce que nous savons les faire croître surtout? C'est la question qu'il nous faut nous poser. Et nous demanderons au cours de cette messe à la Vierge fidèle, à la Vierge persévérante, de nous aider à ne pas oublier la ferveur première, à ne pas oublier les grâces reçues au moment de la vocation, quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état. Que nous sachions, à l'occasion de cette pénitence, non pas envisager de façon triste, sinistre, notre vie spirituelle, mais qu'au contraire nous voyons dans ces sacrifices, dans ces retranchements qu'il va falloir faire parce qu'ils sont indispensables, que nous sachions y voir l'occasion d'un rajeunissement. Nous sommes là comme alourdis, j'allais dire spirituellement empâtés par quantité de superfluité, par quantité de choses inutiles, vaines. Nous sommes encombrés de nous-mêmes. Alors il faut se débarrasser de cela, il faut se débarrasser du vieil homme, il faut effectivement, à l'exemple de ces sportifs, suivre un certain régime, qui n'est pas un régime de faveur, mais plutôt un régime qui nous excite à une certaine ferveur, qui nous oblige à nous débarrasser de tous ces petits bourrelets d'autosatisfaction qui viennent nous encombrer, et pas simplement à la circonférence. Sachons donc demander à Dieu un esprit ascétique. Sachons lui demander la grâce d'être généreux dans les sacrifices, d'être généreux dans cet effort que nous ferons pour nous débarrasser du vieil homme, nous débarrasser de tout ce qui n'est pas proportionné à la vie éternelle, de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui nous handicape, de tout ce qui nous freine dans cette ascension vers Dieu. Demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous aide, elle le fera, soyons-en certains, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce deuxième dimanche de carême, il y a, me semble-t-il, dans vos yeux, messieurs, sur vos visages, mes frères, je ne sais quoi de stupeur et d'étonnement. En effet, contrairement aux usages reçus dans cette maison, où chaque prêtre ne prêche que tous les deux mois, après 4 semaines à peine écoulées, il vous faut écouter la même voix. Vous aspiriez peut-être à un répit de 8 semaines, et à la place de ce répit, je vois dans vos yeux quelques dépits. Comment vous consoler? Comment trouver les mots qui pourraient compatir à votre surprise? Je pourrais bien sûr vous dire que nous sommes en temps de carême, que c'est la pénitence, et que les meilleures pénitences sont celles que l'on ne se choisit pas, que celles que Dieu nous impose. Je pourrais vous dire qu'il ne faut pas s'affliger de ce que, avec la permission divine, l'on nous a infligé. Mais je trouve ces consolations bien indignes de vous. Je pense qu'il nous faut plutôt trouver dans l'évangile de ce jour les mots qu'il faut, les mots que l'on doit recevoir pour bien comprendre ce que c'est que la prédication. Ipsum audite, écoutez-le. Écoutez mon Fils, écoutez Jésus-Christ. Ne vous laissez pas séduire par les hommes, laissez-vous convertir par Jésus-Christ. Ne vous laissez pas flatter par les hommes, laissez-vous retourner, laissez-vous prêcher par Jésus-Christ lui-même. Ne vous attachez pas à la personne du prédicateur, quel qu'il soit, attachez-vous à la personne de Jésus-Christ. Attachez-vous au Fils bien-aimé, celui en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Lui seul est digne de toute notre attention. Mais c'est bien lui qu'il faut écouter, non pas simplement entendre d'une autre oreille distraite. Il faut l'écouter attentivement, avec zèle, avec piété. Or, je vois 3 classes d'hommes. Il y a ceux qui écoutent les hommes, ceux qui écoutent le monde. Il y a ceux qui s'écoutent eux-mêmes. Et puis, il y a enfin ceux qui s'efforcent d'écouter Jésus-Christ lui-même. Ils sont peu nombreux, ceux qui vivent et non pas simplement se contentent d'entendre le ipsum audite. Trop souvent, nous sommes des 2 premières catégories. Tout d'abord, nous sommes de ces hommes qui écoutent les autres hommes, qui écoutent le monde, qui écoutent les flatteurs, qui écoutent ceux qui vont dans le sens de leurs caprices, ceux qui vont dans le sens de leurs vices, ceux qui vont toujours sur ces pentes qui ne remontent jamais, sur ces pentes qui descendent un peu plus bas chaque jour. Dieu fasse que nous ne soyons pas de cela. Si notre Seigneur a pu entendre, et si les apôtres qui assistaient à la transfiguration ont pu entendre ce témoignage du Père, ipsum audite, ça signifie bien qu'il faut écouter Jésus-Christ et lui seul, et non pas se mettre à l'écoute du monde, non pas se mettre à l'écoute des hommes. Savoir être sourd à certains appels, savoir ne pas se laisser charmer par les voix de certaines sirènes, savoir résister à certains appels qui bien évidemment flattent le vieil homme, qui bien évidemment nous satisfont la partie la moins noble de nous. Puis il y a ceux qui s'écoutent eux-mêmes. Il y a ceux qui s'écoutent eux-mêmes en ce sens qu'ils s'écoutent un petit peu trop facilement. Leurs vibrations intérieures, leurs palpitations, leurs émotions, leurs sensations. Il y a ceux qui sont toujours à l'écoute de leur santé, toujours à l'écoute de leurs émotions. Puis il y a ceux qui s'écoutent eux-mêmes alors qu'ils devraient écouter Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent dans l'Évangile les passages qui les intéressent. Ils sont d'accord avec les vertus qu'ils peuvent pratiquer naturellement, mais ils ne sont pas d'accord avec les vertus que le Christ leur impose et qui leur demanderait un effort surnaturel, un effort sur eux-mêmes. Il y a ceux qui naturellement sont calmes et doux et qui aiment à entendre Jésus-Christ leur dire « Soyez doux, soyez patients ». Mais dès lors que Jésus-Christ leur dit « Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas envieux, ne soyez pas rancuniers », alors là ils n'entendent plus. Pauvres petits hémiplégiques, ils n'entendent que d'une oreille. L'autre est sourde, elle est fermée, parce que c'est celle qu'il faudrait ouvrir, c'est celle-là que Jésus-Christ voudrait leur voir ouvrir. Et puis, nous la fermons. Nous sommes sourds, nous y avons mis de la cire, pour que ces passages-là, nous ne les entendions pas. Ipsum audite, écoutez-le. Lorsque Jésus-Christ nous dit que nous sommes paresseux, écoutons-le. Lorsqu'il nous dit que nous sommes envieux, écoutons-le. N'entendons pas simplement ce que nous voulons entendre. Saint Augustin dit de façon très juste, il y a des hommes qui vont à la parole de Dieu pour entendre ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent entendre, les vrais chrétiens, ceux qui sont fidèles, veulent aller à la parole de Dieu pour entendre ce qu'on leur dit. Ce que l'Évangile leur dit, tout l'Évangile et non pas des extraits, des morceaux choisis. Tout, tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que l'Évangile est à morceler? Faut-il diviser le Christ? Faut-il morceler la parole de Dieu? Non, il faut la prendre dans son intégrité. Il faut la prendre dans son intégralité, dans sa totalité. Il ne faut pas diviser le Christ, il ne faut pas diviser l'Évangile. Il faut tout prendre. Il ne faut pas prendre simplement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui nous met en valeur. Voilà ce que c'est que de ne pas s'écouter soi-même, mais d'écouter Jésus-Christ, Jésus-Christ en son entier, Jésus-Christ dans sa totalité, dans tout le message. On peut se demander, n'est-ce pas, qu'est-ce que l'Évangile nous a fait pour que nous le mettions en miettes ainsi, pour que nous sélectionnions soigneusement les passages qui vont dans le sens de notre nature, qui ne nous demandent pas trop d'efforts, pas trop de difficultés, pas trop de peines, et que nous écartions, que nous oublions les passages qui précisément s'adressent à nous, qui précisément viennent toucher le cœur de notre âme. Il faudrait qu'en ce jour de la transfiguration, nous entendions cette phrase du Père, « Ipsum audite », écoutez-le, n'écoutez pas les hommes, n'écoutez pas ceux qui ne veulent pas vous convertir, mais qui s'efforcent au contraire de vous séduire. N'écoutez pas non plus vos mauvaises passions, ne vous écoutez pas vous-même, ne sélectionnez pas dans l'Évangile ce qui vous intéresse, écoutez le Christ, écoutez-le tout seul, lui seul, et pour ça il faut beaucoup de silence intérieur, beaucoup de paix, beaucoup de calme. En ce temps de pénitence, en ce temps de carême, il nous faut faire silence en nous. Savoir être sourd à certains appels du monde, savoir être sourd à certains de ces appels intérieurs, de ces troubles, de ces obsessions, de ces agitations intimes, pour pouvoir laisser parler le Christ en nous. Ne croyez pas que vous ferez votre carême tout seul, ne pensez pas que vous ferez vos efforts à la force du poignet, pensez que Jésus-Christ lui-même veut vous dicter les résolutions que vous avez à prendre, que lui-même veut vous dire quels efforts vous avez à faire, quels progrès vous avez à réaliser. Lui, bien évidemment, il se servira de la prédication d'un homme, peut-être, des lectures que nous pouvons faire, des visites au Saint-Sacrement que nous pouvons effectuer, de la Sainte Messe, de la Sainte Communion, d'une confession bien faite. De tout cela, il se servira. Est-ce que nous choisirons? Est-ce que nous sélectionnerons ce qui nous intéresse? Est-ce qu'encore une fois, comme les autres fois, nous ferons un carême choisi, sélectionné, Nous aurons passé à travers le tamis de nos caprices les choses qui nous intéressent et puis ce qui nous embarrasse, nous l'aurons laissé de côté. Alors nous pouvons dire, oui, en vérité, que nous n'avons pas écouté le Christ. Nous pourrons dire que cette parole de Dieu le Père, beaucoup plus intéressante que toutes les paroles que les hommes peuvent prononcer, que cette parole du Père est restée lettre morte, ipsum audite, écoutez-le. L'avons-nous écouté sérieusement? Nous savons bien, et c'est là le drame intime de chacun d'entre nous, qu'il y a des efforts que nous avons à réaliser. L'on nous l'a dit, nos directeurs spirituels nous l'ont dit, une lecture spirituelle nous l'a fait voir, une confession nous l'a fait comprendre. Nous savons sur quel point il faut faire des progrès. Nous savons quels sont les péchés que nous traînons, quelles sont les mauvaises habitudes que nous promenons avec nous, qui sont comme l'ombre que nous traînons avec nous-mêmes. Nous savons bien, mais nous n'entendons pas, nous n'écoutons pas, nous ne voulons pas ouvrir cette oreille de l'âme. Nous ne voulons pas faire les progrès que Dieu nous demande. Alors, en ce jour, demandons à Dieu tout simplement, à nous qui appartenons à une société qui n'a pour vœux que les vœux du baptême et les vœux du sacerdoce, demandons de réaliser en vérité, en acte, cette parole entendue le jour de notre baptême. Ouvre-toi. Et fêta. Que nos oreilles s'ouvrent, que les oreilles de notre cœur, que les oreilles de notre âme s'ouvrent enfin, que nous ne soyons pas sourds à la vérité, que véritablement le Christ puisse nous parler et que nous l'écoutions. C'est tout. Voilà la résolution que nous devons prendre en ce jour, en ce deuxième dimanche du carême, réaliser l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. N'inventez pas des résolutions, n'inventez pas des pénitences. Réalisez les engagements que vous avez déjà pris. Reprenez les résolutions que vous avez déjà prises et vivez-en. Ouvrez-vous, ouvrez vos oreilles. Que chacun d'entre nous fasse cet effort. Que véritablement ce carême soit l'occasion pour nous d'être attentif à la parole de Dieu. Que cette promesse du baptême ne soit pas simplement une promesse oubliée, une promesse écartée. L'effort qui nous est demandé principalement, c'est celui d'un examen de conscience, sérieux, approfondi. Ayons la lucidité, la franchise, l'humilité, la loyauté de nous examiner devant Dieu, au pied du tabernacle, et voyons qu'est-ce que nous avons choisi, qu'est-ce que nous avons sélectionné, et surtout qu'est-ce que nous avons évité, qu'est-ce que nous avons soigneusement contourné, qu'est-ce que nous avons essayé de dissimuler, qu'est-ce que nous avons voulu cacher. Ouvrons-nous, et pas simplement les oreilles, mais ouvrons notre cœur, ouvrons notre âme, que nous soyons comme un livre ouvert devant Dieu. Nous serons un jour un livre ouvert devant Dieu et devant les hommes. Ce sera le jour du jugement. Avant ce jour du jugement, ayons l'humilité, ayons la simplicité d'ouvrir notre cœur dans un bon examen de conscience, dans une confession profonde, sérieuse. Ouvrons-nous, et pas simplement les oreilles, mais aussi tout notre être, tout notre cœur. Il y a bien évidemment des tâches, il y a bien évidemment des faiblesses, des misères. Sachons les montrer, sachons déjà nous-mêmes les voir, les regarder, les montrer à notre confesseur, demander à Dieu de nous en débarrasser. Alors véritablement, nous pourrons dire, oui, nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, et nous vivons de sa parole. Nous voulons vivre de sa parole. Il ne s'agit pas simplement de l'écouter, il faut vivre, il faut suivre ce qu'il nous dit, il faut faire ce qu'il nous commande. Voilà les exigences de ce deuxième dimanche de carême. Voilà ce que notre Seigneur nous dit aujourd'hui. Demandons à la Sainte Vierge, au cours de cette messe, de nous ouvrir, à nous qui avons tellement tendance, au nom de je ne sais quelle mauvaise fierté, de je ne sais quel mauvais amour-propre, qui avons tendance à nous recroqueviller, à nous refermer sur nous-mêmes, à ne pas nous ouvrir, à manquer de loyauté, à manquer de franchise. Demandons à la Sainte Vierge qu'elle soit justement la clé de notre âme, la clé de notre cœur, qu'elle ouvre et que Dieu puisse entrer, que Dieu puisse habiter en nous, que le jour de Pâques, véritablement, Dieu puisse faire de notre âme sa maison, que véritablement il puisse prendre possession de nous. Sachons que tous ces petits coins, tous ces petits recoins qui sentent le renfermer et que nous nous sommes réservés avec tant de complaisance sont des places volées à Dieu, sont des places que nous ne donnons pas à Dieu dans notre âme. Ce sont des endroits où nous voulons être nous-mêmes et où nous ne voulons pas que Dieu soit. Sachons ouvrir cela. Même ces petites chambres secrètes, même ces petits recoins, sachons les ouvrir pour que Dieu prenne la place, que les ténèbres fuient, que la lumière entre, que notre misère sorte et que la richesse de Dieu entre en nous. Voilà ce qui nous est demandé au cours de ce carême. Sachons le faire. Nous le ferons avec l'aide de la Sainte Vierge. Nous lui demanderons effectivement qu'elle ouvre notre âme, qu'elle ouvre notre cœur. Plus aucune serrure de fermée, que tout soit lumineux dans nos âmes, que nous fassions tous les efforts que Dieu nous demande, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Messieurs, mes frères, il y a des gens qui aiment l'humanité et qui n'aiment pas les hommes. Il y a des gens qui aiment la fraternité et qui n'aiment pas leurs frères. C'est une faiblesse bien singulière de l'esprit humain qui se trahit là, dans cet amour pour les abstractions et cette haine concrète de ceux qui nous entourent. La Révolution française, vous le savez, a fait adorer la fraternité et le meilleur moyen que les révolutionnaires français ont trouvé d'embrasser leurs frères, ce fut la guillotine. Complaisance pour les entités abstraites qui nous feraient, à nous peut-être, vénérer, aimer, apprécier la fraternité, notre fraternité, autant que l'on peut apprécier une société anonyme à responsabilité limitée. Saint Paul, dans l'épître de ce jour, lorsqu'il nous dit aimer la fraternité n'entend pas nous faire aimer une abstraction, une entité énigmatique, mystérieuse. Il veut que nous aimions nos frères et tous les saints qui ont honoré Dieu, qui sont la gloire de l'Église, ont aimé la fraternité en aimant leurs frères. Croyez-vous que Saint Vincent de Paul ait aimé la pauvreté ? Non, il a aimé les pauvres. Croyez-vous que le Saint Curé d'Ars a aimé les péchés ? Non, il a aimé les pécheurs. Eh bien, pour nous aussi, il ne s'agit pas d'aimer une entité abstraite, il s'agit d'aimer une réalité multiple et concrète. Aimons nos frères. Et cela nous est indiqué, plus qu'indiqué, commandé par Jésus-Christ lui-même. Saint Paul se fait ici l'écho d'un commandement que nous connaissons bien, qui n'a rien d'abstrait et qui nous est donné par Jésus-Christ lui-même. Je vous donne un commandement nouveau, c'est celui d'aimer vos frères comme je vous ai aimé. Et le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, et je crois que nous sommes les disciples de Jésus et de Marie, et le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Cet amour, donc, doit être concret, pratique, quotidien. Trop souvent, nous avons tendance, encore une fois, à aimer la famille, mais pas notre famille, la croix, mais pas notre croix. Cette faculté d'abstraire est une forme de paralysie dans la vie spirituelle, dans la vie morale. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Chaque jour, il faut se battre contre soi-même chaque jour pour cesser d'aimer une entité abstraite et donner de son temps, de son affection, peut-être même de ses souffrances, pour les frères qui nous entourent. Que nous appartenions à une famille religieuse, que nous appartenions à une famille selon le sang, il est entendu que nous devons aimer nos frères. Dans les familles aussi, l'on aime à défendre la paternité, mais l'on n'aime pas son père. L'on aime à défendre la filiation, on le fait avec plus ou moins de bonheur, mais l'on n'aime pas ses enfants. Ce décalage, cette distorsion est bien fâcheuse et Dieu ne l'agrée pas. Lorsque saint Paul nous dit « aimez la fraternité », il nous dit « aimez vos frères ». Dans quelques années, messieurs, vous serez appelés à remplir une mission auprès des âmes. Est-ce que vous irez au bout du monde? Est-ce que vous irez au bout de vos forces? Est-ce que vous irez au bout de votre vie pour l'amour de l'humanité? Non. Est-ce que vous irez pour l'amour de la fraternité? Non. Vous irez pour l'amour de vos frères. Vous irez pour l'amour des âmes. Vous irez pour l'amour de Jésus-Christ. Réalité concrète, personnelle. Trop souvent, nous nous réfugions derrière ces abstractions parce qu'elles sont là, bien commodes, parfaitement aseptisées. Elles ne nous dérangent pas. Cela n'engage à rien d'aimer l'humanité. En revanche, c'est beaucoup plus dérangeant, beaucoup plus contraignant, beaucoup plus éprouvant d'aimer les hommes avec leurs faiblesses, avec leurs fragilités, avec les peines qu'ils peuvent nous causer, les déceptions qu'ils peuvent provoquer en notre âme. Et c'est pourtant ces hommes qu'il faut aimer, et non pas l'humanité. Nous demanderons, au cours de ce trimestre qui commence, l'amour de la fraternité, l'amour concret, l'amour de cette fraternité Saint-Pie-X, c'est-à-dire l'amour des membres de cette fraternité, du supérieur au dernier des membres. Nous demanderons cela de façon précise, quotidienne. N'aimez pas la fraternité, aimez vos frères dans la fraternité. Sinon, eh bien, nous ferons comme les Jacobins, nous nous payerons de mots, nous nous griserons d'illusions, mais nos œuvres seront nulles, elles seront indigentes. Nous aurons la bouche pleine de mots, l'esprit rempli d'une quantité d'idées. Mais nos œuvres de charité seront bien faibles. Il faut demander cet amour, non pas en mots, non pas en paroles, mais en actes. Il faut haïr toutes ces abstractions. Il faut même, j'irai jusqu'à plus loin, j'irai un peu plus loin dans cette crise douloureuse qui est celle de l'Église, il faut haïr toutes ces analyses purement conceptuelles qui paralysent et divisent notre action. Sinon, alors, nous ne ferons pas l'œuvre de Dieu et nous ne serons pas les disciples de Jésus-Christ, nous ne serons pas les apôtres de Marie et de Jésus. Nous nous payerons, nous aussi, de mots. Nous nous griserons d'illusions. Mais en acte, concrètement, nous serons là, paralysés, divisés, inutiles, stériles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus-Christ, et le monde verra que vous êtes mes disciples dans la mesure où vous aimerez. C'est là un repère bien simple. C'est là un thermomètre bien précis. Comment pouvons-nous donner au monde le témoignage que nous sommes les disciples que nous prétendons être, disciples de Jésus-Christ, de façon très simple, très concrète, très pratique, dans la mesure où nous nous aimons les uns les autres. Tout le reste est illusion. Tout le reste ne sert à rien. Sachons donc, non pas simplement lire ces paroles, mais les vivre. Il ne s'agit pas d'une proposition, il s'agit d'un commandement. Et ce commandement ne vient pas des hommes, il vient de Jésus-Christ lui-même. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Sachons manifester notre sujétion à Jésus-Christ comme Jésus-Christ l'entend, et non pas selon nos caprices, selon notre façon personnelle de voir les choses. Cette phrase, ce verset de la Sainte Écriture, ce commandement de Jésus-Christ est incontournable. On ne peut le mettre entre parenthèses. On ne peut faire comme s'il n'existait pas. Il faut le prendre, le vivre dans toutes ses exigences. Sachons le faire. Sachons être de vrais disciples. Alors nous verrons ce que c'est que la fraternité, véritablement. D'abord, non pas une société anonyme, mais une société religieuse faite de membres qui s'aiment, qui obéissent à leurs supérieurs, qui cherchent à avancer dans le progrès spirituel, qui cherchent à monter vers Jésus-Christ et qui cherchent à faire monter les âmes qui leur sont confiées vers Jésus-Christ. Alors vous irez au bout du monde, vous irez au bout de vos forces, vous donnerez votre vie pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour de l'Église, pour l'amour des âmes. Vous accepterez tous les sacrifices, vous accepterez toutes les croix, parce que vous savez en qui vous avez cru, parce que vous savez qui vous aimez, parce que vous savez qui vous aime. Jésus-Christ n'est pas une abstraction. Nous ne servons pas une entité abstraite. Nous servons une personne. Et nous n'aimons pas des entités abstraites, nous aimons des âmes concrètes. Sachons-le. Demandons à Marie, reine des apôtres, de nous donner l'intelligence de cette phrase, l'intelligence de ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Sachons aussi nous appuyer sur son aide pour être de vrais disciples de Jésus-Christ et que le monde le voit. Il ne le verra pas par nos déclarations, il ne le verra pas par nos grandes phrases, il le verra parce que nous nous aimons les uns les autres. Ces vérités sont très simples, il faut les graver dans notre cœur, il faut les traduire en actes. Il faudra commencer dès aujourd'hui, ainsi soit-il.